Allô? Allô?
Allô?
Oui, allô?
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 Hey!
Allô?
Allô, allô?
Allô?
Mais allô, Maillardville?
Allô, Maillardville? Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Soyez à l'écoute.
Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous les remercions de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Nous reconnaissons également la présence sur ces terres des membres de la Nation Métis. Je suis Geneviève Carlepère et aujourd'hui, je suis avec Benoît Brisson. Salut Benoît!
Salut!
Pooja Parsant!
Salut!
Éric Tremblay!
Bonjour tout le monde!
Et Kasra Tariri!
Bonjour tout le monde!
Et nous voulons mentionner que nous travaillons en collaboration avec WebWest et on les remercie énormément. Aujourd'hui, pour l'épisode de juillet, nous allons commencer avec Pooja qui va nous partager les actualités de la Société francophone de Maillardville pour l'été 2025. On va enchaîner avec Éric, qui est notre vulgarisateur scientifique pour l'entreprise Profacois et qui va nous préparer une capsule scientifique au sujet du pH aujourd'hui. On va parler du pH. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça. Par la suite, on continue avec la chronique culinaire de Benoît au sujet des hot dogs à travers le continent et la chronique de Kasra au sujet des effets de la chaleur sur le corps humain et dormir et demeurer avec nous jusqu'à la fin. Alexandre nous a préparé une chronique culturelle pour le mois de juillet qui va être présentée par Pooja aujourd'hui. On y va. Bonjour Pooja, comment ça va?
Bonjour Geneviève. Alors ça va de bonne humeur parce que ça y est, c'est l'été. On est tellement excités. Alors à la Société francophone de Maillardville, c'est vrai qu'on est prêt à prendre des vacances, mais aussi c'est le début du camp d'été francophone de Maillardville qui va se dérouler à l'École des pionniers de Maillardville justement. Donc ça va être du 2 juillet au 22 août. Alors, pendant 8 semaines, on a concocté une belle programmation pour le bonheur des petits. Il y aura des ateliers, des animations, des jeux et aussi des sorties. Donc, on a une belle équipe en place et on est super excités d'accueillir nos tout petits pour un été extraordinaire. Alors, autre petite mise à jour. Donc, on a aussi nos activités régulières comme les 5 à 7. Le club de lecture, les cours de français, l'heure du conte pour les petits et aussi les petits matins qui vont reprendre en septembre. Donc, on aura une contre-lâche pendant l'été, les mois de juillet et août. Mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare une belle programmation pour la rentrée en septembre. Donc, on a déjà de belles surprises qu'on vous réserve. Et bien sûr, vous pouvez toujours écouter tous les épisodes d'Allô Maillardville que vous avez manqué pendant l'été. C'est l'occasion idéale pour ça. Donc, sur ce, à toi Geneviève.
Merci Pooja. C'est drôle Pooja, quand je t'écoutais parler, tu disais, moi je dis à où, toi tu dis...
Août.
Donc, je pense que ça dépend de où on a appris notre français.
Oui, je pense. C'est vrai que j'étais surprise quand j'ai entendu « out » pour la première fois, mais ça se dit. Les deux sont bons, je pense.
Oui, les deux sont bons. Hein. Tout le monde est tous d'accord avec ça?
Oui, les deux sont bons. Moi, j'ai une grande chance à dire « où ».
Où? Moi, je dis « à où ».
Oh, moi, en tant que prof, c'est où?
OK. On se retourne maintenant vers Éric avec la capsule scientifique au sujet du pH.
Bon, là, on a pas mal tout fait de la physique avec moi depuis le début, vous vous souvenez? Oui. On a vu la physique de la lumière, après ça, l'air et tout. Là, j'ai pensé à faire de la chimie avec vous autres aujourd'hui. Tu ne seras pas explosé.
On se lance en chimie.
Ben, en tout cas, si tout se passe bien, on a quand même droit à 10 % de perte. Ça tient-tu toujours, ça, dans le studio?
Oui.
Bon, là je joue avec le risque parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'appareils électroniques autour de nous. Bon, quoi que j'ai fait sauter avec le Tesla l'autre fois, on s'en rappelle. Là, j'ai des liquides préparés devant moi. Mais entre autres, à la maison, c'est une activité super intéressante à faire durant l'été avec vos jeunes. Jeunes, moins jeunes et adolescents surtout. Parce que là, la capsule que je fais avec vous autres aujourd'hui, c'est que je vais démystifier un peu c'est quoi le pH. Mais avant tout, je dois rendre hommage à un grand chimiste danois qui a découvert, en fait, le pH qu'on appelle, qui est Søren Peter. C'est un Danois qui est né en 1868, puis est décédé en 1939, un chimiste danois, comme je vous ai dit. Et c'est lui qui a vraiment trouvé, introduit la notion de potentiel d'hydrogène, plus couramment appelé pH. Le pH, c'est quoi? C'est la quantité d'hydrogène qu'on retrouve dans une solution, autrement dit. Exemple, si vous avez une piscine à la maison, c'est certain que vous devez équilibrer votre pH de l'eau de la piscine.
Quotidiennement.
Oui, parce que si vous ne maintenez pas un pH confortable et convenable, ben, à chaque fois vous allez rentrer la tête sous l'eau, vous allez avoir les yeux brûlés ou quoi que ce soit. Fait que c'est important, le pH de la piscine. Puis souvent, quand on a une piscine, ceux et celles qui sont habitués à la maison ou en studio, on a comme un truc là où est-ce qu'on prend un échantillon d'eau, on doit mettre des gouttes, et là, on a une charte de couleurs qui dit, ben, si on va vers le rouge, c'est très acide. Si on s'en va vers le bleuté, mauve, là, c'est très basique. Mais c'est quoi tout ça? Là, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous autres sur la table du studio, c'est l'échelle du pH. L'échelle en tant que telle, bon, on ne parle pas de l'échelle pour grimper sur un toit, là, mais c'est l'échelle qui est de 0 à 14. Si on parle de 0, c'est, je veux que vous compreniez, là, on est dans le rouge, là, c'est très acide. Tandis que si on s'en va complètement à l'opposé, qui est le mauve, là, on arrive à l'échelle 14, c'est très basique. Et je donne un exemple tantôt à Benoît. Si on prend un élément à l'échelle 14, si vous avez déjà utilisé des produits chimiques qui vont déboucher les toilettes ou le lavabo,
le drainage.
Ouais, le drainage, entre autres. Bon, c'est sûr que souvent, le vinaigre et le bicarbonate de soude, ça peut pousser le travail. Mais justement, je reviendrai là-dessus sur le vinaigre et le bicarbonate de soude tout à l'heure, si vous avez déjà fait ça. On fait ça en garderie ou quoi que ce soit. Là. Je vais faire un lien tantôt là-dessus. Mais si on prend l'exemple du drainage, qui débouche les toilettes ou quoi que ce soit, ben, si on met ça sur notre peau, ça va brûler la peau. Tandis que si on va vers complètement l'opposé, qui est l'acide qu'on retrouve dans les batteries, dans les piles électriques, là aussi, si on en a sur la peau, ça brûle. Si vous observez en plein milieu, c'est l'échelle 7. L'échelle 7, c'est neutre. C'est-à-dire que si j'envoie de l'eau dans vos yeux, déminéralisée, c'est-à-dire elle est vraiment à l'échelle, parce que déminéralisée, ça veut dire qu'il n'y a pas de minéraux, pas de sel. Alors là, si je vous envoie ça dans les yeux, ça fait absolument rien. Fait que c'est neutre. Si on prend l'exemple du bicarbonate de soude et du vinaigre que tout le monde a fait à la maison, quand vous prenez un acide qui est l'acide acétique, puis après ça, on va mélanger avec du bicarbonate de soude, là, on mélange les deux, on obtient une effervescence, une réaction chimique. Souvenez-vous qu'est-ce qu'on voyait comme les volcans, là? Alors là, on obtient du CO2, du gaz carbonique. Puis après, si vous attendez, il n'y a plus rien qui se passe. Quand il ne se passe plus rien, qu'est-ce qui arrive? C'est neutre. C'est-à-dire que ça redevient de l'eau. Fait qu'on arrive à l'échelle 7, autrement dit, c'est qu'on est allé à un côté du pH, acide, une base, on met ça ensemble. Benoît, je peux-tu parler de qu'est-ce qu'on a déjà vécu le week-end passé? T'avais des moulements, tu sais, des brûlements d'estomac.
Oui, oui, oui.
Puis là, t'es dit, oh, faut que j'aille au dépanneur chercher des Tums. Oui. Bon. Alors, le brûlement d'estomac, je ne sais pas si je devais en parler, mais c'est que tout le monde sait que Benoît a
un brûlement d'estomac. OK.
Il y a deux semaines.
Bon, alors, on a un brûlement d'estomac, fait que ça veut dire que là, c'est comme tout le milieu, l'acide gastrique est comme trop élevé. Alors là, ça commence à brûler. Qu'est-ce qu'on prend? On va aller chercher à l'opposé, c'est-à-dire une base, qui est à ce moment-là du Tums, qui est du magnésie. Puis, c'est comme un magnésium, dans le fond, puis il va venir neutraliser l'acidité. Et là, ça va calmer l'acidité. C'est qu'on voit... Mais exemple, si j'avais dit à Benoît, prends-donc un bon verre de vinaigre.
Oh, mon Dieu!
Là, on ajoute de l'acidité dans l'acidité, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qu'on a à faire à la maison comme expérience? Je vous donne les ingrédients qui sont 6 ingrédients qu'on a tous à la maison, comme de l'alcool à friction. Ouais. L'alcool à friction, fait que vous mettez ça dans un petit contenant. Par la suite, l'ammoniac. Et moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est le fameux Windex, sans nommer le produit. Le Windex, c'est un ammoniac. Alors, on va voir tout à l'heure, est-ce que l'alcool à friction ou l'alcool va être sur acide ou base, tandis que l'ammoniac, sur quelle échelle qu'on va le retrouver? Le lait de magnésie qu'on a aussi en pharmacie, qui est très facile à trouver. On a du peroxyde, du H2O2. Ça, le peroxyde, on l'a tous à la maison. Ensuite, on a l'acide acétique, qui est le fameux vinaigre. Et le dernier produit, c'est le bicarbonate de soude. C'est la petite bâche ou le truc qu'on a dans le frigo pour enlever les odeurs, quoi que ce soit. Alors, ces ingrédients-là, en fait, ont été mélangés avec de l'eau. Puis, on obtient une solution homogène. Homogène, ça veut dire que là, c'est bien mélangé. Les cristaux, tout ça, sont dans le liquide. Peut-être moins pour le lait de magnésium. Là, on voit qu'il est déposé dans le fond à cause de la gravité, mais ça va quand même bien réagir. Là, maintenant, comment on peut faire de la magie avec vos enfants à la maison? c'est j'ai une recette pour voir la maison. Moi, par contre, c'est pas ça que j'ai. C'est un truc, un indicateur universel qu'on utilise en laboratoire à l'école. C'est un produit qui est coûteux. Et dès qu'on va venir le mettre en contact avec les différents liquides que j'ai sur mon comptoir, là, sur mon plateau, là, ça va réagir, c'est-à-dire qu'on va obtenir une couleur. Mais si vous voulez à la maison, là, j'ai un truc pour vous. Prenez du chou rouge. Coupez-le en quartier. Mettez ça dans de l'eau. Faites bouillir ça. Par la suite, enlevez tous les particules solides du chou. Récupérez juste l'eau qui a été bouillie avec le chou rouge. Et ça fait le même travail. Sauf que je vous déconseille de conserver votre chou rouge. Parce que par expérience, nous, ça a déjà explosé dans une armoire et ça pue énormément parce que ça a fermenté. Fait que si vous préparez une solution de chou rouge, c'est que vous allez faire une expérience dans la même semaine. C'est bien important et je vous déconseille de le conserver au frigo ou quoi que ce soit parce que c'est comme naturel, ça va fermenter et ça risque d'exploser. Bon, là maintenant, on va tester nos 6 produits qu'il y a ici. Les produits vont réagir avec un indicateur universel. Ça va donner une coloration. Et là, bien sûr, chacun notre tour, là, vous allez verser 5 petites gouttes d'indicateur universel. Benoît, si tu veux bien commencer, on va commencer avec l'alcool à friction. Fait que tu vas venir faire 5 petites gouttes dans le contenant avec l'alcool à friction dedans.
5 petites gouttes dans le contenant.
Oui, attention, pas 6, parce que tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé dans une autre école. Alors, on y va. Fait que là, on y va avec 5 gouttes. 1, 3, 4 et 5. Maintenant, si je viens brasser un peu comme ça, quelle couleur qu'on obtient?
On a un jaune.
Oui, on a un jaune. Alors, jaune, si on vient passer ça sur notre feuille, qui est déjà la pastille jaune avec jaune, si on regarde l'échelle du pH, sur l'échelle, on a la couleur.
4-5.
On serait sur un 4-5 acide et non basique. OK? Mm-hmm. Fait que ça serait, puis c'est normal, l'alcool, on le sait, c'est acide.
Je l'ai senti en plus.
Oui, on le sent. Écoute, hein? L'ammoniaque. L'ammoniaque, on va voir sur quelle échelle on va venir placer si c'est acide ou basique. Toujours 5 gouttes.
2, 3, 4 et 5.
Oh, ça, c'est intéressant. Vous avez vu la couleur?
Oh, oui, c'est bien. Le bleu.
On est vraiment dans le bleu, là.
Dans oui. Le basique.
Exact. On est très basique. Fait que là, je vais aller porter si quelqu'un peut voir être merci. Geneviève?
Oui, je me lève.
Est-ce que tu veux du peroxyde, de l'acide acétique, bicarbonate de soude ou du magnésium?
Moi, je vais prendre du magnésium.
Parfait.
Donc.
Alors, faites-moi plaisir. 5 gouttes.
Oups!
5 gouttes, pas 5 jets!
Ça a été vite!
Oui, ça a été vite. Normalement, parce que là, on a mis trop d'indicateurs universels, fait qu'on on obtient un genre de petit bleu poudre. C'est un petit cyan, là.
Ça a été vite, désolé.
Fait que c'est un petit bleu poudre. Pas grave. Alors, si on peut le placer sur le petit bleu poudre,
c'est bleu poudre, ça.
Benoît, tu veux essayer le peroxyde?
Ah oui, regarde, il est un petit peu bleu.
Ouais.
Foncé. Donc, c'est assez basique, mais pas aussi basique que l'ammoniaque.
Exact. Jusqu'à maintenant, on voit que ce qui est plus basique, c'est l'ammoniaque, suivi en deuxième du magnésium.
Et on y va ici pour le peroxyde.
Là, le H2O2, le peroxyde.
Wow.
Ça, là, imaginez, moi, je suis encore émerveillé, là, puis je suis habitué, imaginez votre enfant. C'est on peut faire de la magie, là.
Là, ça tourne
dans
le...
C'est rose.
C'est rose.
Ouais,
rose-orangé,
je te dis.
Magenta. Oui, exact. Un genre de magenta, mais vous allez voir, là, à cause de la lumière, mais on est plus proche du orange que du magenta.
OK.
Fait que là, on obtient ça ici.
Donc,
maintenant,
c'est acide.
Mais là, acide acétique, c'est un grand mot qui veut dire du vinaigre. Fait que là, on y va avec 5.
C'est du vinaigre blanc qu'on utilise à la maison.
Oui, d'un vinaigre que vous avez à la maison aussi. Oui. Quoique le mien est un petit peu plus concentré en laboratoire, là. Oh, là, on obtient vraiment un truc très acide. Vous avez vu, là? On s'en va plus vers le magenta cette fois-ci, plus vers le rouge. Et pour finir, Geneviève. Là, c'est 5 gouttes, Geneviève. 5 gouttes.
Je vais faire attention.
Est-ce qu'il coule vite?
Oui. Alors, on a plus de 5 petites gouttes. 3, 4, 5. Oh, t'as bien fait ça.
Ouais.
Et là, on obtient une couleur verte. Fait que là, si on regarde le résultat de nos 6 petits contenants avec chaque ingrédient dedans, on voit vraiment à l'échelle qu'on a à l'opposé l'ammoniaque, qui est très basique, suivi du magnésium. Et là, le bicarbonate de soude, on obtient un vert. Vert, c'est neutre.
Sauf que, comme le lait et l'eau.
Exact. Et puis si je... Non, on le fera pas, mais si je vous envoyais ça dans les yeux, ça devrait pas brûler. OK?
On va pas tester.
Exactement. Mais par contre, j'ai un truc, un indicateur numérique de pH que je vais parler un petit peu tantôt, là. Ça, par contre, ça donne plus de précision. C'est ce qu'on va utiliser avec nos élèves du secondaire. Mm-hmm. C'est en laboratoire. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Là, on obtient après ça l'alcool, qui est jaune. Ensuite, le peroxyde, qui est comme orangé. Et l'acide acétique, qu'on est plus ou moins comme dans le magenta, dans le rouge. Là, pour comprendre comment ça marche le pH, ça, c'est du niveau secondaire. On enseigne ça aux élèves du secondaire, mais pas aux élèves du primaire. Quand on vous dit c'est quoi qui est plus acide, plus basique et moins basique, si je prends l'exemple ici, sur ma feuille, j'ai pris trois ingrédients qu'on connaît bien. Le lait qu'on boit, le lait de vache, un café noir, pas de lait dedans, bien sûr, et du jus de tomate. Mm-hmm. On voit bien mon exemple, le lait serait moins acide que le café, et le café est moins acide que le jus de tomate. Comment on explique ça à des élèves au niveau secondaire? C'est 10 exposés à, exemple, le lait, comparé au café, est 10 fois moins basique, pardon, 10 fois moins acide, excusez-moi, que le café. Mais l'inverse se dit aussi, on pourrait dire le café est plus 10 fois plus acide que le lait, ou on dit le lait est 10 fois plus basique que le café. D'un côté ou de l'autre. Là où ça se complique, c'est si je dépasse multiple de 10. Là, on voit que le lait est à 6 à l'échelle de pH, café est à 5 et le jus de tomate est à 4. Fait que ça veut dire que, là, si j'explique à mes élèves, le jus de tomate comparé au lait, parce que là, je fais deux bombes, alors je fais 100 fois plus acide que le lait parce que je t'exposais à 2. Tandis que si je veux comparer avec le café, ben le jus de tomate est comme 10 fois plus acide que le café. Le contraire existe aussi. Si je veux comparer le lait et le jus de tomate, ben je vais dire le lait est 100 fois plus basique que le jus de tomate. Fait que là, on explique ça à des élèves. Ça, c'est un exemple facile, mais après ça, quand ils doivent faire un laboratoire qu'on vient de faire, ils doivent maintenant placer sur papier c'est acide de combien et basique de combien. Alors là, c'est un peu compliqué, mais on va utiliser justement un indicateur numérique. L'indicateur numérique, comment ça fonctionne? Ça vaut quand même assez cher, là. C'est qu'on voit une diode au bout. Une diode que vos yeux ne voient pas la lumière qui sort de là. Fait que c'est comme de l'infrarouge qui va rebondir dans le liquide puis qui va revenir. Puis ça, à cause, qu'est-ce qui est absorbé dans cette lumière-là que vos yeux ne voient pas? On est capable de voir le pH exact. Allons-y avec le vert. Parce que le vert, je vous ai dit tantôt, ça ne devrait pas vous brûler vos yeux. Mais là, on ne le fera pas à quelqu'un pour vrai, mais on va utiliser l'indicateur de pH numérique. Alors là, il est allumé, je le mets dans le liquide et j'attends que les chiffres arrêtent de bouger. Là, moi, je ne suis pas placé pour bien voir le chrono, là, au lieu des chiffres numériques. Qu'est-ce que vous voyez?
Ça descend encore un petit peu.
On est autour de quoi?
7.44.
OK, 7.44. Tranquillement, ça descend. Est-ce que ça descend vers le
7.35?
Ah, c'est oui, ça. Donc, tranquillement, parce que là, je n'ai pas une grosse quantité. Hein. C'est seulement du 30 ml que j'ai dans mon contenant. Mm-hmm. Quand on le fait en labo, on le fait dans un béchage de 50 ml. Mm-hmm. Fait que 50 ml, ça donne plus de liberté à la lumière de se promener dans le liquide. Tandis que là, je suis comme au fond. Là. Mais est-ce on que
tu touches. Rendu à 7.
Non, ben, j'essaie de garder au moins 1-2 mm du fond pour que la lumière réfléchisse, là, puisqu'elle rebondit dans le fond au capteur. On a un émetteur puis un receveur, puis il va analyser qu'est-ce qu'il absorbe comme lumière.
Et dans le fond, là, t'es rendu. De toute façon, ça augmente, ça baisse, ça augmente.
Ouais, c'est parce que c'est juste bouge. C'est ça. Alors, on voit qu'on se rapprochait du cercle. Alors, on pourrait le tester. Qui est cobaye? Qui veut qu'on teste le bicarbonate de soude dans l'œil?
Non, ça va.
Non, merci. Ah, ne pas faire à la maison. Alors, c'est vraiment fascinant. C'est très simple. Si vous avez un indicateur universel, mais ça m'étonnerait parce que ça, on le sent en labo, mais du jus de chou rouge, ça fait exactement la même. Puis là, vous avez trouvé des trucs dans la maison. Moi, j'ai pris 6 que je sais que ça va donner l'équilibre de toute l'échelle du pH qu'on a. Mais voilà, c'est une belle expérience que vous pouvez faire cet été, une journée de pluie ou quoi que ce soit. Là, vous trouvez des ingrédients à la maison, vous mélangez ça avec un liquide après, ça prend de l'eau souvent. Et c'est sûr que là, si vous prenez de l'alcool à friction, je vous déconseille d'ajouter de l'eau. Si vous prenez, exemple, du peroxyde, je vous déconseille d'ajouter de l'eau aussi. Prenez exactement, parce qu'il n'est pas assez concentré. Fait que n'ajoutez pas de l'eau pour l'alcool à friction et du peroxyde. L'acide acétique, vous pouvez l'utiliser en ajoutant de l'eau, le magnésium, l'ammoniaque qui est le Windex et le bicarbonate de soude, bien sûr. Voilà, oh, c'était ma capsule de pH à faire.
C'est le fun, c'est le fun. On va tous se mettre à faire des expériences chez nous bientôt. Hein?
Et ça ne coûte pas cher.
Bon, bien, merci. C'est le temps de se retourner vers Benoît qui nous a préparé une chronique culinaire au sujet des hot dogs à travers le continent. Vas-y, Benoît, je suis curieuse.
Ben oui, vous savez, c'est le début de l'été, ça annonce le retour des rassemblements conviviaux, d'autres barbecues, on parle de famille, amis, on se retrouve pour savourer souvent des incontournables hot dogs. C'est souvent quelque chose de vraiment simple. Souvent, c'est associé au stade de baseball. C'est un emblème incontournable de la street food nord-américain. Le hot dog trouve ses origines au-delà de la frontière des États-Unis et de l'Amérique. En fait, celui qui l'a conceptualisé est un boulanger immigrant allemand, Charles Flatman, où il en a popularisé la vente dès 1867 sur Coney Island, au sud-ouest de Brooklyn, dans l'État de New York. Celui-ci a combiné la saucisse traditionnelle de type Frankfurt dans un petit pain allongé, créant ainsi un mets à emporter sur le pouce. Comme on peut voir, présentement, on peut se faire à l'idée les petits cartes, les petits pouces-pouces, où ce que les petits pouces-pouces ambulants, où ce que les gens vendent des hot dogs, des fois grillés, des fois faits à la vapeur. Donc, c'était vraiment ça. Mais vous savez, qu'est-ce qui démarque chaque hot dog? Ce sont les condiments qu'on y rajoute. D'ailleurs, certaines villes ont même développé leur propre combinaison d'ingrédients simples à complexes en ajoutant des saveurs et des textures. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est connu ou qu'est-ce qui est très populaire sur notre continent. Bon, c'est sûr, pour celles et ceux qui viennent de Montréal, on connaît tous les fameux Steamy All Dressed. Mm-hmm. Donc là, c'est les petits hot dogs cuits à la vapeur. Ça, c'est servi dans un pain moelleux, encore une fois, fait à la vapeur, garni de moutarde, d'oignons hachés, de la relish et du chou frais ou de la salade de chou à la limite. Il y a qui se rapproche beaucoup à celui du style New York, car on reste sur la côte Est. Lui, par contre, c'est encore une fois saucisse bouillie et un pain à la vapeur moelleux également, mais sauf que lui est garni de moutarde épicée, d'oignons et de choucroute. La grosse différence, il n'y a pas de relish. Et là, si on va plus vers le Midwest, si on s'en va plus vers l'intérieur, aux États-Unis toujours, on a le style Chicago. Donc, saucisse, très important, 100% bœuf dans un pain de crème de pavot, et ça, c'est garni de moutarde jaune, d'oignons, de relish vert fluo. Je vous dis, quand on regarde la relish, c'est vraiment vert fluo. Des tranches de tomates, cornichons, piment mariné et une pincée de sel de céleri. Mais surtout, jamais de ketchup. Puis ça, je vous dis, on n'en mange pas deux, on en mange un et on s'en met plein le visage quand on en mange. Mais je l'ai essayé, c'est vraiment très bon. Il y a également, pas loin de chez nous, style Seattle. C'est une généreuse couche de fromage à la crème. C'est accompagné avec des oignons grillés, des jalapenos et des fois de la sauce sriracha. Puis ça, c'est servi dans un pain hot dog brioché. Et il y a également le style de Los Angeles. On l'appelle aussi le Danger Dog. C'est une saucisse enveloppée de bacon grillé, servie dans un pain moelleux, encore une fois. Et ça, c'est garni d'oignons caramélisés, des poivrons sautés, des jalapenos, de la mayonnaise, ketchup et moutarde. Fait que ça aussi, on s'en met plein la figure. Et par chez nous, qu'est-ce qui est très connu? C'est le fameux Japa Dog. Donc, ça, c'est une saucisse, c'est un pain hot dog avec une saucisse garnie de mayonnaise japonaise qu'on appelle la fameuse mayonnaise Q-pile, sauce teriyaki, ag nori et parfois même du daikon râpé ou même des flocons de poisson séché. Je ne sais pas si vous connaissez Japa Dog.
Oui, j'ai déjà goûté un Japa Dog.
Des flocons de poisson séché. Mm-hmm. Sérieux, j'aime.
Oui, c'est un goût qui est sur la côte ouest. Alors, en somme, si vous voulez avoir des bonnes adresses dans la région du Grand Vancouver, bon, les gens qui vivent dans la... Donc, il y a le Japa Dog au centre-ville qui sont un peu partout, à la fois les stands et les franchises qu'on peut retrouver un peu partout dans la région. Si vous êtes plus du style Montréal, par exemple, vous pouvez aller chez Annie's Dairy Bar à New Westminster, 760, 722, excusez-moi, 6e rue New Westminster, ou la belle patate 1215 rue Davies à Vancouver. Si vous aimez les hot dogs grand format, ce qu'on appelle les footlong, mais avec peut-être une myriade de possibilités, il y a également ce qu'on appelle 50s hot dog au 7741 rue Edmonds à Burnaby. Ça, c'est vraiment un diner style à l'ancienne où ils font encore des milkshakes et des frites maison. Ouais. Et puis, quand vous allez dans le coin, c'est encore vraiment à l'ancienne. Vous voyez que c'est vraiment à l'ancienne de la façon dont le restaurant est installé. Et puis, et si vous ne voulez pas trop dépenser, il y a toujours Costco qui offre...
Je m'en allais dire ça, genre...
Exactement.
C'était pour dire Costco.
C'est ça, qui offre toujours le fameux combo hot dog et une boisson pour la modique somme de 1,50$.
Je suis curieuse, Benoît. Tu sais, quand on va au Costco, comme Eric parle, il y a deux sortes de hot dog. Il y en a, c'est le Polish dog, puis l'autre, c'est le beef dog. C'est quoi la différence entre les deux?
Le Polish dog, ça, c'est plus style... pour ceux qui ne mangent pas de bœuf, donc souvent ça va être style kielbasa, souvent à base de porc ou de poulet, ou des fois un mélange des deux. Et le beef dog, bon, là, ça dit littéralement, c'est littéralement à base de bœuf pour celles et ceux qui ne mangent pas de viande de porc. Et puis, comme je vous avais dit, c'est pour la modique somme de 1,50$, même en ces dollars d'aujourd'hui, c'est une très bonne aubaine. Mais à vous, chère équipe, comment est-ce que vous aimez vos dogs vapeur, grillés? Puis c'est quoi vos condiments préférés?
Moi, je suis vraiment style québécoise à la québécoise de chez Valentine. Moi, j'ai steamé avec le moutarde, relish, oignon et puis la
coleslaw. Le chou, le fameux chou. Ouais. Parfait. Puis toi, Eric?
Moi, j'ai grandi à Verdun. Ouais. Verdun qui est à côté de Montréal. Et on avait chez Mario, sous-marin. Puis il faisait des hot dogs, mais toastés. Ah, oh, c'était vraiment...
Ah, écoute, j'aime les toastés.
Ah oui, mais c'est sûr que j'aime bien le fameux toast à vapeur, relish moutarde. Mais celui de Mario's qu'il y avait à Verdun, là, j'ai des bons souvenirs. Puis après ça, je suis venu, j'ai changé pour des Michigans comme ça aussi.
Oh mon Dieu, les fameux,
oh, oui, les fameux Michigans. Mmh.
Oh, c'est pour nous. Je ne sais pas si Pouja, c'est quoi un Michigan?
Non,
pas c'est tout. Ça, elle nous regardait avec des grands yeux. Ouais, ouais. Là.
Mais toi, est-ce que tu aimes les hot dogs?
C'est quoi? Ben, explique-moi, c'est quoi un Michigan?
Le Michigan, c'est dans le fond, c'est, ça ne vient pas du Michigan.
Non.
C'est vraiment quelque chose de vraiment spécial au Québec. C'est drôle que vous en parlez, parce que j'avais fait la petite recherche. C'est littéralement, c'est un hot dog qui est toasté avec... Bien sûr, avec une saucisse grillée, mais en dessous de la saucisse, il y a une tranche de fromage cheddar avec la saucisse et puis de la sauce style sauce spaghetti. Ou de la sauce à la viande, ouais, littéralement. Oui,
style pie spaghetti.
C'est ouais, sloppy ouais, joe dans ce chose-là. Ouais.
Alors, j'ai faim, là.
On a tout fait.
Faut que tu manges avec une fourchette. Mais je sais pas, je sais que tu manges pas de bœuf ou de viande en général, mais les hot dogs végétariens, est-ce que tu en consommes des fois?
Oui, enfin, j'ai déjà goûté un hot dog au poulet, donc okay, c'était pas mal avec de la sauce moutarde et de miel. Donc, je sais pas, c'est, oui, c'était bon, bizarrement, c'était bon. Mais c'est vrai que le hot dog, habituellement, je consomme pas souvent, mais c'est vrai qu'à vous entendre comme ça, ça a l'air savoureux.
Ben oui, mon Dieu, c'est comme le street food, le fast food, il faut simplement y aller parcimonieux. Une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne. Mais oui, en effet, ça reste du fast food. Quoique, même, on peut peut-être prendre du fast food et peut-être penser prendre des saucisses italiennes ou des saucisses allemandes, des saucisses Toulouse. On peut faire un sandwich avec une bonne miche de pain avec ça, puis ça peut faire la job, comme on dit. Mais c'est surtout les accompagnements et les condiments aussi nombreux qu'ils peuvent être, qui vont tout faire la différence. Puis même pour les saucisses type de tofu, des fois, si vous les faites griller, et si vous comparez avec une saucisse à la base de viande de poulet, des fois, c'est assez méprisant.
Intéressant.
C'est ça. Alors, sur ce, je vous, chers auditrices et auditeurs d'Allô Maillardville, je vous souhaite un bon été.
Merci, Benoît. Nous passons maintenant à la chronique avec Cassera, qui nous parle aujourd'hui des effets de la chaleur d'été sur le corps humain. Donc, Cassera, comment la chaleur affecte-t-elle l'humeur et le comportement humain? Pensez-vous que la chaleur estivale nous rend heureux ou tristes?
Salut, bonjour à tous. L'un des effets les plus immédiats de la chaleur estivale est son impact sur l'humeur et le comportement humain. Lorsque nous sommes exposés à la lumière du soleil, notre corps produit de la sérotonine, un neurotransmetteur connu sous le nom d'hormone du bonheur. Cette hormone améliore l'humeur et favorise un sentiment de bien-être. C'est pourquoi nous nous sentons souvent plus heureux lors des journées ensoleillées. Le soleil peut vraiment nous faire nous sentir mieux. Cependant, la chaleur a aussi un côté plus sombre. Bien que la sérotonine puisse améliorer notre humeur, une chaleur excessive peut également augmenter le niveau de cortisol, l'hormone du stress du corps. Lorsque la température augmente, nous pouvons devenir plus irritables ou fatigués. Ce déséquilibre hormonal peut aussi perturber notre sommeil, rendant plus difficile d'avoir une bonne nuit de repos pendant les mois d'été. Ainsi, bien que l'été apporte sa part de joie, il nécessite également que nous gérions les défis liés au stress et à la fatigue causée par la chaleur.
Mm-hmm. Quel est l'impact de l'été sur notre productivité et notre créativité? Je suis curieuse ici. Hein?
Ouais.
Les gens sont-ils plus concentrés pendant l'été ou sont plus distraits?
En mode vacances.
En mode vacances, oui.
Beaucoup de personnes constatent que l'été a un effet mixte sur la productivité. D'une part, la chaleur et le soleil peuvent augmenter l'énergie et la créativité. D'autre part, la chaleur peut rendre plus difficile de se reconcentrer ou de travailler efficacement. La plage de température la plus favorable à la productivité est située entre 18 et 24 degrés Celsius, ce qui explique pourquoi une chaleur extrême peut conduire à des journées de travail plus longues. Fait intéressant, l'été peut être une période où la créativité fleurit. L'atmosphère plus détendue de la saison encourage les gens à passer du temps à l'extérieur, à essayer de nouvelles activités et à penser différemment. Que ce soit un pique-nique improvisé ou l'été nous invite à sortir de la routine et à vivre de nouvelles expériences.
Mais là, je suis curieuse, Kassra, comment prendre soin de notre corps pendant une chaleur extrême?
Restez hydraté, habillez-vous en fonction de la chaleur, évitez la chaleur pendant les heures de pointe, refroidissez votre corps. Par exemple, utilisez des packs de glace ou prenez des douches ou des bains frais, mangez léger, surveillez les signes d'épuisement dû à la chaleur. Utilisez des ventilateurs ou un refroidissement par évaporation, par exemple un chiffon humide placé devant un ventilateur pour créer un refroidisseur évaporatif improvisé. Évitez les activités physiques intenses. Restez informé, soyez attentif aux alertes météo et aux avertissements de chaleur. En conclusion, profitez de l'extérieur tout en restant conscient des effets que la chaleur a sur notre corps. Gardez tout en équilibre. Merci.
Merci, Kassra. J'ajouterais également, tu sais, si on a des voisins qui vont pas bien, sont peut-être malades ou bien ont des personnes âgées, d'aller leur faire un petit coucou parce que des fois, les gens veulent pas demander d'aide.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, mais je pense qu'on a besoin, en tant que bons citoyens, d'aller les visiter.
De jeter un œil toujours, oui.
Mm-hmm. Excellent. Mais bonne chronique, Kassra. Merci beaucoup.
Oui, merci.
Merci.
Merci beaucoup, Kassra. Excellent. Belle chronique. Je pense que c'est important. Il faut faire attention quand il fait trop chaud. Puis je pense qu'il faut vraiment porter attention aux gens autour de nous.
Pour s'hydrater,
pour prendre soin.
Crème solaire.
Oui, c'est ça, c'est ça. On va continuer. En terminant, on va aller pour la chronique culturelle avec Alexandre. Alexandre, il l'a préparé, mais c'est Pooja aujourd'hui qui va nous la présenter. Vas-y, Pooja.
Oui, merci beaucoup, Geneviève. Alors, ça y est, les grandes vacances sont là et c'est le moment de se détendre et de profiter du beau soleil d'été. Alors, Alex nous a compilé une liste d'événements qui va faire vibrer Vancouver et sa région cet été. Alors, que vous soyez amateur de musique, de bonne nourriture, de culture ou simplement en quête de plaisir en plein air, juillet et août, s'annonce bouillant. Et pas juste à cause de la météo. Allez, je vous embarque pour un petit tour des événements à ne pas manquer. On commence fort le 5 juillet, direction West Fourth Avenue pour le Katsalano Festival, la plus grande fête de rue gratuite de Vancouver. Au programme, musique live sur plusieurs scènes, nourriture locale, artisans et des milliers de personnes qui prennent d'assaut la rue dans une ambiance 100% estivale. Deuxième arrêt, le Vancouver Folk Music Festival du 18 au 20 juillet au magnifique Jericho Beach Park. C'est un mélange de folk, d'indie, de musique du monde, le tout dans une ambiance relaxe et familiale. Vous y verrez des artistes venus d'un peu partout dans le monde et surtout, vous pourrez écouter un concert les pieds dans le sable avec nos belles montagnes en arrière-plan. Ensuite, on a un classique, la Celebration of Light, le grand festival de feux d'artifice sur English Bay. Cette année, ça se passe les 19, 23 et 26 juillet avec des performances pyrotechniques impressionnantes, le tout synchronisé à de la musique. C'est gratuit, c'est spectaculaire et c'est juste magique. Contrairement aux années précédentes, ce ne seront pas les pays qui s'affronteront, mais les provinces avec le Yukon le 19 juillet, la belle province du Québec le 23 et on finira avec la Nouvelle-Écosse le 26 juillet. Petit conseil, arrivez tôt pour avoir une bonne place. Ou installez-vous sur un patio si vous avez un ami bien placé dans les
endroits. Moi, j'ai une amie qui a un bateau.
Ah, vénard!
Les amis au large vont regarder sur l'océan, c'est très
bon. Ah, c'est idéal, c'est idéal. Donc, maintenant, place à la diversité avec le Vancouver Pride Festival et son célèbre défilé le 3 août dans le West End. Attendez-vous à une explosion de couleurs, de créativité, de musique et de bonne humeur. Toute la ville se met à leur LGBTQ+, pendant ce week-end-là, avec des parties, des concerts, des événements communautaires un peu partout. On s'éloigne un peu de Vancouver maintenant pour les amateurs de sensations fortes, avec deux événements dont le premier se passera du 8 au 17 août à Whistler pour le festival Crankworx, une compétition de vélo extrême avec des figures complètement folles qui rassemblent les meilleurs riders du monde. Puis, pour le deuxième événement, il faudra se rendre à Abbotsford du 8 au 10 août, car c'est le Abbotsford International Air Show avec les Snowbirds, les Thunderbirds, des avions de chasse, des simulateurs et des démonstrations à couper le souffle. Ensuite, si vous êtes plutôt du genre épicurien, notez bien le Brewery and the Beast le 27 juillet pour les amateurs de viande grillée et de bière artisanale. Ou encore, le Vancouver Craft Beer and Music Festival le 12 juillet au PN avec plus de 150 brasseries représentées et des concerts toute la journée. Bref, votre palais va voyager lui aussi. Et enfin, pour un été plus tranquille, tous les mardis d'août, il y a du cinéma en plein air dans Stanley Park, donc c'est gratuit, c'est romantique et parfait pour une soirée sympa entre amis ou en famille. Vous pouvez aussi explorer les marchés nocturnes de Richmond ou des shipyards à Norman avec nourriture de rue, musique et artisanat local. Voilà, c'est un petit peu le tour des événements incontournables de l'été à Vancouver. Donc que vous soyez fan de musique, de nourriture, d'aventure ou juste en mode découverte, il y a forcément quelque chose pour vous. Alors profitez, sortez, explorez et surtout, comme Kasra nous a dit, hydratez-vous bien. Il va faire chaud cet été. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. À la rentrée!
Merci, Pooja. Wow! Plein de belles choses cet été. Donc, merci également à nos chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode d'Allô Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses chroniqueurs, Benoît, Éric, Kasra, Alexandre, Pooja et moi-même, Geneviève. Nous voulons également remercier la Société francophone de Maillardville, WebWest pour leur collaboration et pour l'édition de ce podcast. Une mention spéciale à Kasra pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve au mois de septembre pour notre prochain épisode. Bonne année!
Bonne année!
Oui!